Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
On va vous parler de Kanye West et de son lecteur MP3 très particulier, du nouveau réseau social de Donald Trump, de la chute vertigineuse de Facebook et de tout le reste de l'actu tech. C'est parti, c'est tout de suite. Bonjour à tous et bienvenue dans le Rendez-vous Tech. Je suis Patrick Béja et je suis incroyablement heureux de vous retrouver encore une fois pour un résumé, allez, d'une petite heure de toute l'actu tech. On va être avec vous pour vous décortiquer, vous expliquer, vous analyser ce qui se passe d'important dans le monde de la technologie. Et comme je le dis souvent, on ne peut pas comprendre le monde sans comprendre la tech. Donc on vous donne les clés pour comprendre tout ce qui se passe autour de nous. Et aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir pour cet épisode numéro 446, nous sommes toujours en février 2022, j'ai donc l'immense plaisir d'envoyer mes ondes podcastiques à travers l'Atlantique pour atterrir au Canada, au Québec même, et recevoir encore une fois dans l'émission Pascal Forgette. Comment ça va, Pascal ?
Ça va extrêmement bien, Patrick, et ondes podcastiques. Il y a quelque chose de vaguement sensuel là-dedans, je suis troublé. Je vis toujours des émotions prodigieuses quand je collabore avec toi, Patrick.
Écoute, en plus, je sais que tu t'es réveillé, évidemment, il est très tôt chez toi, donc tu sors à peine du lit, donc encore
Suis-je encore réveillé ? C'est ça. Telle est la clé. Suis-je réveillé ? Rêve-je ?
Écoute, on verra, ça va vite te réveiller, ce dont on va parler là. Il y a donc des histoires assez amusantes avec Kanye West, mais qui ont un peu plus de profondeur qu'on ne pourrait le penser. Et puis Donald Trump, Mark Zuckerberg, et puis des copyrights à des intelligences artificielles. Est-ce que tu sais si on peut attribuer des copyrights ou pas ? Les Américains nous répondent. Il y a aussi plein de choses, des satellites européens, des blocages de matchs de football, etc. etc. Mais avant de se lancer dans tous ces sujets, j'ai plusieurs choses à vous dire. D'abord, Martin, Final Flow, Bébé Bonsaï, Thomas et Johan Veni, merci à vous tous de soutenir l'émission, ainsi que les producteurs Lancelot Davizard et Franck Matignon. Ce sont grâce à eux que cette émission reste gratuite et disponible pour tout le monde. Donc merci à ceux qui vont sur patreon.com/rdvtech pour la soutenir. Autre chose extrêmement importante. Dans quelques semaines, même pas deux semaines, je vais participer à un événement caritatif qui s'appelle Battle 4, qui va être streamé sur Twitch et qui va... donc, il y a le site Battle 4 et le compte Twitter Battle 4 sur lequel vous pouvez trouver les détails, mais c'est un event de stream caritatif qui sera en partie au Stade de France et en partie avec des streamers en remote au bénéfice de Handicap International et l'association Apart, que je vous en dirai un petit peu plus à ce moment, mais on a des goals amusants auxquels on est en train de réfléchir avec le Discord. Il y a des histoires de pizza ananas, il y a des histoires de tier list de MCU, de films du MCU. Enfin, ça va être sympathique. Je streamerai quelques heures chaque jour dans le week-end du 4 au 6 mars. Donc, j'espère que vous serez présents. Je vous en redirai un petit mot dans les prochains épisodes. Mais notez déjà dans vos agendas, du 4 au 6 mars, je serai en train de faire tout ça. J'ai très hâte d'y être. Et, écoutez, je pense qu'on peut se lancer dans les news de l'émission. T'es prêt, Pascal ?
Je suis prêt comme un seul homme. Le serai-je plus un jour ? Je ne sais pas. Lançons-nous.
Lançons-nous tout de suite avec les infos à retenir. Et j'espère que ma maman est en train de regarder l'émission. Alors, on va parler de Facebook dans une seconde. J'étais au téléphone avec ma mère tout à l'heure et elle m'a dit « Ah, mais j'ai vu un documentaire sur un truc complètement fou, ça s'appelle Facebook Analytica. Cambridge Analytica. Est-ce que tu as entendu parler de ça ? Est-ce que tu peux m'expliquer ?» Bien sûr, elle savait que j'en avais entendu parler. « Est-ce que tu peux m'expliquer exactement de quoi il s'agit ?» Et en fait, on a parlé pendant une heure de tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Et moi, je lui ai dit, mais maman, il faudrait que tu écoutes le Rendez-vous Tech. Ça serait beaucoup plus simple. Bon, évidemment, ça me fait toujours plaisir de lui parler. Mais écoute donc le Rendez-vous Tech, comme ça, tu comprendras toutes ces choses-là. Et donc, elle m'a dit, OK, tout à l'heure, je vais écouter le Rendez-vous Tech. Je lui ai dit, je suis en live sur Twitch à midi. Elle sait bien sûr ce qu'est Twitch et elle connaît toutes ces choses-là. Et je suis curieux de savoir si elle écoute maintenant ou pas, ou si elle est occupée. Donc, mais si, maman, si tu regardes en live maintenant, tu peux m'envoyer un SMS, comme ça je saurai. Si tu ne regardes pas, si je ne reçois pas de SMS, je saurai que tu ne regardes pas, mais que tu écouteras le podcast ensuite, évidemment. On s'en doute. Mais on ne va pas commencer avec Facebook. On va commencer avec Kanye West, qui a annoncé que son prochain album, Donda 2, qui est la suite de Donda 1, est disponible à partir du 22, donc aujourd'hui, uniquement sur sa plateforme, enfin son lecteur Stem Player. Et je ne vais pas vous mettre le son du truc parce que c'est évidemment soumis au problème de copyright, mais en fait, c'est un lecteur de fichiers audio, enfin de musique, qui a des fonctionnalités intéressantes qui permet de supprimer certaines pistes ou d'en ajouter, enfin de supprimer certaines pistes ou d'en réduire le son. Par exemple, si on veut que la piste vocale, on peut garder que la piste vocale. Si on veut que la piste de, enfin si on veut ajouter la piste des percussions, etc. etc. Et donc, on a quatre pistes qu'on peut avoir ou supprimer. Donc, c'est un moyen d'écouter les albums de musique en interagissant un petit peu avec sa musique. C'est pas inintéressant, mais le lecteur ne coûte $200. Je suis même pas sûr qu'il soit disponible en Europe. Hein. Je n'ai pas poussé la chose plus loin. Il faut avouer que c'est a priori quelque chose qui ne va pas être... je le vois mal garder son album et sa musique en général uniquement sur ce système-là et ne pas rejoindre les systèmes classiques comme Spotify, Apple Music, Google Music, etc. Donc, il y a déjà eu des expériences de ce type-là. Numérama nous rappelle que c'était avec Tidal qu'il avait signé pendant un temps. Oui, c'est ça. The Life of Pablo était sorti uniquement sur Tidal. Et puis, ça avait duré quelques mois et très vite, c'est arrivé sur les autres services. Là, je pense que ça sera la même chose. Le petit lecteur qui permet de supprimer les pistes est intéressant. C'est pas, bon, on va dire plutôt que c'est pas inintéressant. Mais il y a deux choses qui m'intéressent encore plus. C'est le fait qu'il ait parlé d'un autre problème dans la musique, Kanye West. Il a aussi évoqué le fait que les musiciens, au final, ne touchent que 12% du prix de vente, entre guillemets, de la musique sur Internet. Et là, il touche du doigt un souci qui est vraiment problématique, qui est celui de la part des revenus de la musique sur Internet qui revient aux plateformes, aux labels et aux musiciens. Alors, il ne faut pas confondre musiciens et labels, évidemment, parce que les labels touchent généralement, d'après ce qu'on sait, environ 70% du prix de vente de la musique, et les musiciens, au final, n'en retirent que 10%, et les plateformes, elles, n'en retirent du coup que 30%, donc l'immense partie va aux labels et pas aux musiciens et pas aux plateformes, comme Spotify ne gagne pas énormément d'argent sur ces morceaux de musique qu'ils vous vendent avec les abonnements. Et du coup, on comprend un petit peu mieux ce que fait Spotify avec les podcasts, qui sont, comme on en parlait les semaines précédentes, un moyen pour eux d'avoir un contenu sur lequel ils ont la main, un contenu qu'ils maîtrisent beaucoup plus que la musique et qu'ils peuvent monétiser, ce qu'ils sont en train de chercher à faire encore plus avec leurs achats récents de sociétés d'analytics de podcasts. Ils ont acheté Chartable et Podsites, qui sont des sociétés qui regardent les analytics des fichiers audio que vous écoutez. Et selon certains, ça leur permettrait d'avoir une solution d'analyse qui serait comparable à celle de YouTube pour la vidéo, qui a été évidemment un facteur extrêmement important pour le succès de YouTube dans le domaine de la vidéo. Le fait de donner des informations et des analytics aux créateurs de contenu de vidéo a été hyper important. Et Spotify est en train de s'engouffrer complètement dans cette brèche. Alors, pour le moment, il n'y a pas de nécessité d'avoir ces podcasts sur Spotify pour... de donner l'exclusivité aux podcasts sur Spotify pour avoir des avantages. Eux, ils ont leur propre production, mais ça ne s'applique pas à l'ensemble de l'écosystème des podcasts. Mais peut-être qu'à terme, est-ce qu'ils vont réussir à bouffer l'écosystème des podcasts ? Je ne sais pas. Mais par contre, ils ont clairement de l'appétit. Ça fait deux choses, deux sujets un petit peu distincts. Pascal, sur la question de l'album Donda 2, qui sera en vente uniquement, enfin qui est en vente uniquement sur le système STEM de Kanye West, tu y crois, toi ? Tu penses que ça va fonctionner ? Combien de temps avant qu'on les retrouve sur Spotify, justement ?
Ok, quelques semaines, quelques mois, tout au plus, c'est certain. L'idée d'avoir un lecteur personnalisé, le STEM Player, ça me rappelle le lecteur Pono de Neil Young. Je ne sais pas si tu te rappelles, c'est tout un lecteur qui permettait de lire de la musique en haute définition. Neil Young voulait avoir le contrôle, même principe, d'avoir le contrôle de son contenu, s'assurer qu'il était entendu de la bonne façon, avec toute la qualité nécessaire. Le lecteur Pono a évidemment cessé de fonctionner, cessé d'être supporté à partir de 2017, donc il a duré quelques années. Le STEM Player, c'est un peu le même principe, c'est un jouet technologique amusant. C'est un peu une expérimentation. Il y a Will.i.am qui a lancé plusieurs produits techno comme ça, c'est cet intérêt de... contrôler son contenu et de se démarquer en ayant des trucs comme ça. Mais je suis très déchiré avec le lecteur. Est-ce que c'est une fantaisie d'artiste pour augmenter l'exclusivité de son contenu ou une véritable révolution dans le domaine de la musique?
Je me demande si c'est pas Kanye West qui a tellement accompli dans le domaine de la musique qui s'embête et qui se dit « Mais qu'est-ce que je peux faire de plus ? Comment je peux aller plus loin ?» tu vois, dans la manière dont je transmets ma musique à mes auditeurs et mes fans. Il s'est dit « Je vais me lancer là-dedans, il a tellement d'argent de toute façon. »
il va pas perdre de sous. Même s'il perd des sous avec ça, c'est pas l'intérêt. C'est pas nécessairement de faire des revenus. Je crois que l'idée est d'offrir un objet plus coûteux qu'un t-shirt ou un album physique que les fans réclament. Les fans veulent des objets, des choses qu'ils peuvent tenir dans leurs mains. Alors, le lecteur est un bel exemple de ça. Sauf que ça peut être remplacé par une application, à la limite. Là. Ça peut être quelque chose qui est beaucoup moins coûteux, beaucoup plus facile à distribuer et qui pourrait coûter quelques dollars au lieu de coûter 200 dollars ou même être offert gratuitement aux gens qui achètent son album. Oui. Je comprends mal cette espèce de...
J'ai dit Kanye, pardon, c'est Kanye, oui.
Non, c'est maintenant Ye tout court, je crois. Maintenant,
ça, c'est les gens, les intimes, tu sais. Moi, je ne suis pas assez familier de
c'est
Monsieur
comme moi
West.
Qui t'appelle. C'est ça, je t'appelle Monsieur Patrick, c'est pour ça, c'est par respect et admiration.
et du coup, et pour la Spotify, stratégie. Ouais.
Oui, je suis très, très embêté avec la stratégie de podcast de Spotify. On a entendu cette semaine que le contrat avec Joe Rogan était de 200 millions plutôt que les 100 millions qui circulaient. 100 millions, je trouve ça énorme pour s'assurer l'exclusivité d'un podcasteur. On se met dans l'embarras s'il y a des controverses dans les contenus. Faut contrôler. Est-ce que avec ces outils de d'évaluation là des podcasts et de suivi, est-ce qu'on va avoir des podcasts homogènes, l'optimisation des sujets populaires jusqu'à saturation, ce qui arrive avec YouTube, on s'entend qu'il y a un type de vidéo qui fonctionne. On parle de ASMR et là boum, il y a 50 vidéos d'ASMR, l'effet d'entraînement et comme ça. Et je trouve ça très embêtant. Parce que dans la stratégie de Spotify, il y a quelques années, on disait parfait. En ce moment, les artistes n'ont pas beaucoup de revenus.
Bientôt, mais... Pascal.
Mais bientôt, ça va fonctionner. Qu'est-ce que c'est ce bruit? ASMR. Qu'est-ce que. Ah, bon sang. Je me dis, ça y est, il s'ouvre une collation. En effet, Patrick.
Mais c'est vrai que l'une des craintes, bon, le podcast a toujours été un média beaucoup plus engageant, j'allais dire engagé, mais c'est pas le terme. C'est-à-dire que les gens, pour écouter un podcast, doivent vraiment vouloir aller vers le podcast et l'écouter. C'est une force et une faiblesse du média. Mais sur YouTube, le problème de ces analytics, c'est vrai que ça crée la dictature de l'algorithme, finalement. Est-ce que dans les podcasts, une fois que ça sera un petit peu plus organisé par une société qui pourrait y mettre un petit peu d'ordre, est-ce qu'il n'y aura pas justement, pas les bonnes pratiques, mais enfin les choses qui marchent et les choses qui ne marchent pas ? Et pour avoir du succès, il faudra faire les choses qui marchent, quoi. peut-être.
Tout à fait, mais au niveau des contenus, une chanson, on peut la réécouter 50 fois parce qu'on l'aime, elle est entraînante, mais un podcast, est-ce qu'une fois qu'on a entendu un podcast policier, OK, on va peut-être écouter un deuxième podcast policier avec d'autres enquêtes. Et à un moment donné, on arrive à un point où des podcasts de mystère et des podcasts de nouvelles sportives et des podcasts de... On arrive à un certain nombre de magazines, un certain nombre de podcasts où on veut autre chose. On veut une variété le dans notre assiette tech. De podcasts.
Et le rendez-vous tech, on peut l'écouter autant qu'on veut. Hein. Si vous voulez écouter l'émission 5 fois chaque épisode, vous pouvez. Il n'y a aucun problème là-dessus.
Bon, chaque un autre fois, on entend sujet. Des nuances, des subtilités et tout. Mais ce qui m'embête, c'est que podcast n'a pas que Spotify, excusez, avec sa stratégie de podcast, ne donne pas plus d'argent aux artistes musicaux. Il se détache de ça pour donner 100 millions à Joe Rogan. Imaginez le nombre de petits artistes qui auraient pu profiter d'avoir 5 000 $ par-ci, 10 000 $ par-là. Ça aurait fait pu faire une énorme différence. Maintenant, c'est Joe Rogan qui en profite pour quelque chose qui aurait pu... être distribué ailleurs. Podcast, avant, Joe Rogan était distribué partout. Et moi, personnellement, je suis offensé à l'idée d'avoir à utiliser une plateforme pour entendre un podcast. C'est comme si j'avais à choisir un téléviseur, acheter une marque de téléviseur pour acheter une chaîne de télé, pour écouter une chaîne de télé.
Ouais.
Et donc, j'aurais acheté quatre téléviseurs pour écouter, c'est ça. Oui, ouais. Tout à fait. Mais ce serait d'avoir acheté quatre téléviseurs pour écouter quatre chaînes de télé différentes. C'est un peu idiot.
Joe Rogan a bien rentabilisé l'affaire pour Spotify, puisque d'après les mêmes sons internes qu'on entend, une pub sur le podcast de Joe Rogan coûte aux annonceurs $1 million et qu'ils sont en plus obligés d'acheter un bundle de pub avec d'autres podcasts sur Spotify, en plus de celui de Joe Rogan. Donc tu te rends compte, même s'ils ont payé finalement 200 millions pour avoir l'exclusivité de la distribution du podcast sur leur plateforme, 200 millions, bah, c'est 200 pubs, vu que l'émission dure, je ne sais pas, 2-3 heures à chaque fois.
Oui, c'est certain vite atteint, que hein, donc, ça se rentabilise vite, mais c'est quand même choquant comme façon de contrôler le contenu, l'exclusivité.
Pour le monde du podcast. Écoute, Pascal, tu fais un podcast. Est-ce que si Spotify vient te voir et te dit « on te donne 100 millions de dollars pour avoir l'exclusivité de la distribution de ton podcast que tout le monde peut écouter, n'importe qui peut télécharger Spotify et écouter
je ne suis pas, je suis corruptible, je dois l'avouer, je suis corruptible. »
Ah voilà, la vérité se fait jour.
Non, non, c'est pas Joe Rogan le problème, c'est la proposition scandaleuse de Spotify de contrôler l'exclusivité des podcasts.
Le truc, c'est que ils sont dans un business qui est compliqué, celui de la musique, où les labels, comme on l'a dit, ont tout le pouvoir. Ils ne contrôlent pas le produit qu'ils distribuent. Et je comprends qu'ils aient besoin de trouver une alternative. Là où, effectivement, c'est un petit peu compliqué pour un écosystème qui existe depuis longtemps, comme celui du podcast, c'est que traditionnellement, bah, l'écosystème est hyper ouvert. Il s'est même construit sur cette ouverture. Donc, c'est vrai. Mais bon.
Écoute, je vais me permettre une proposition. Je me permets une proposition. Vas-y. Plutôt que d'offrir l'exclusivité des podcasts, de dire que c'est que sur Spotify qu'on peut entendre un podcast, ça devrait être offert sans publicité sur Spotify. Ça devrait être offert à l'avance sur Spotify. Si tu l'écoutes sur Spotify, tu l'écoutes une semaine à l'avance. C'est un bel avantage. On l'écoute en une seule partie sur Spotify plutôt qu'en quelques blocs, mais le podcast pourrait rester ailleurs. Distribué partout dans le monde, sur toutes les plateformes, mais avec des publicités, mais avec peut-être des extraits exclusifs seulement sur Spotify. À ce moment-là, tu permets de diffuser l'information, tu crées un engouement, et si tu veux avoir le produit offert par Spotify, tu l'écoutes d'une traite à l'avance, en primeur, et sans publicité sur Spotify, ça pourrait être bien. Mais encore une fois, il faut des publicités.
Ça serait bien pour les auditeurs, je ne suis pas convaincu que ça serait super.
Ça serait bien pour les auditeurs. Moi, je suis pour les auditeurs, Patrick. Je veux que tes auditeurs, je veux que mes auditeurs, je veux que la planète entière se tienne par la main et danse en riant.
Alors, j'imagine que tu ne vas pas aller sur le réseau social Truth de Donald Trump qui a été lancé hier. Donald Trump étant, on le sait, un petit peu une personne un petit peu divisive, clivante, on dit en français.
Clivante, oui, c'est bien.
Et donc, c'est un petit peu le début de la fin d'une saga qu'on a suivie haletant, cette histoire de réseau social de Donald Trump, puisqu'il y a eu plusieurs alternatives qui sont arrivées, enfin, qui ont été des prétendants, mais qui n'étaient pas officiellement issus de l'entourage de Donald Trump, ou en tout cas de sa société, Trump Media Group, je crois. Et donc, le réseau social Truth, après des petits, comment dire, des previews et puis des petits soucis avec Mastodon dont on avait parlé, il a été lancé ce lundi. Il est évidemment surchargé. Et je crois que, bon, il n'y a pas énormément de choses à dire là-dessus, mais ce que je voulais évoquer, c'est que je suis évidemment convaincu qu'il va y avoir beaucoup de gens qui vont dire « Ah, regardez, le réseau est surchargé, on ne peut pas s'y connecter, il y a énormément de soucis. » Et évidemment, ça va être vrai au lancement, parce que au lancement de n'importe quel service populaire, bah, c'est compliqué de faire face à l'afflux de personnes qui vont essayer de s'y connecter. Là où ça va être vraiment intéressant, ce n'est pas ça. C'est de voir s'il va réussir à rester sur la durée. Et il y a deux problématiques, à mon sens, qu'il va devoir surmonter, ce réseau. C'est, d'une part, la problématique à laquelle ont été confrontés, à vrai dire, les deux problématiques, les réseaux de ce type-là y ont été confrontés par le passé, sont des réseaux qui, on va dire, généralement sous couvert de défense de la liberté d'expression, deviennent un petit peu le refuge de l'extrême droite. Là où les réseaux un petit peu plus consensuels, un petit peu plus traditionnels, et j'utilise des guillemets pour dire ça, parce que parfois on y trouve des contenus critiquables également, mais quand ces réseaux-là disent « stop », comme Facebook ou Twitter, eh ben souvent ils se réfugient sur ces autres réseaux pour dire des choses qui ne seraient pas acceptables, incitation à la violence, ce genre de choses, sur les réseaux plus traditionnels. Et donc, ça, la nature même de la popularité de ces réseaux pose deux problèmes. D'une part, la publicité, parce que ces réseaux sont évidemment généralement financé par de la publicité, et les annonceurs qui acceptent d'associer leur image à ce type de propos sont rares. C'est généralement des annonceurs très orientés et des annonceurs qui sont, on va dire, réduits en nombre et en capacité financière. Les plus consensuels évitent généralement ce genre de choses. Donc, le financement du réseau pose question. Et certains pourraient dire « oui, mais alors peut-être qu'ils vont demander un abonnement à leurs utilisateurs, possible ». Mais on retombe sur le deuxième problème qui est bah, « si sur ces réseaux, il n'y a que des gens qui sont d'accord avec le moteur du réseau, en l'occurrence Donald Trump, eh ben, ils sont tous d'accord entre eux et il n'y a pas de controverse qui est le moteur de ces réseaux souvent. Parce que si c'est juste pour aller lire ce qu'a déclaré Donald Trump, je ne suis pas convaincu que sans les commentaires des opposants, ça soit aussi motivant pour les utilisateurs. À côté de ça, le réseau a été vraiment modelé sur Twitter à un point qui en est presque ridicule. C'est une copie conforme. On a vraiment l'impression que Donald Trump, qui a été banni de Twitter, je ne l'ai pas mentionné, mais on s'en souvient tous, banni de Twitter il y a un moment déjà, avait tellement envie d'être sur Twitter qu'il s'est recréé son propre faux Twitter pour lui. Évidemment, la base politique de Donald Trump reste encore très très forte. Il y a une sorte de presque de clivage au Parti républicain entre ceux qui sont pro et ceux qui sont anti. Ceux qui sont anti sont un petit peu en train de se réveiller et de se rendre compte qu'ils ont livré les clés du parti à Donald Trump, et certains essayent de s'en défaire maintenant, c'est peut-être trop tard. Donc c'est pas une figure complètement has-been non plus, mais le réseau Truth en lui-même pose des questions sur la longévité. Pour moi, c'est cet élément qui est le plus intéressant, plus que « Oh mon Dieu, il y a eu trop de connexions, on n'arrive pas à se connecter au réseau Truth encore. » L'app est disponible sur l'App Store, si vous voulez aller regarder. Bon, moi, je me suis abstenu. Pascal, est-ce que tu crois qu'il va réussir à se créer un réseau social qui ait véritablement de l'engagement et de l'activité sur le long terme, Donald Trump ?
Non, je crois que Trump s'offre un porte-voix. S'offre, comme tu le disais, un substitut de Twitter. Et puis, je trouve hilarant que son réseau s'appelle Truth, la vérité, le Truth. Et puis, plutôt qu'un retweet, c'est un retruth. Je trouve ça très particulier. C'est comme une revérité. C'est comme et là, j'imagine toute l'image de valider.
Ça devient en
wellien,
vraiment. Revérité, c'est un petit peu...
Exactement. Et c'est ça, on retransmet la vérité, donc on devient des porte-voix, encore une fois, de cette bonne parole. Je crains que le réseau va être complètement rempli de fanfarons, de trolls, qui vont s'amuser à lancer des trucs horribles. Je ne crois pas que les... Je vais être très méchant ici. Je ne crois pas que les plus ardents supporters de Trump ont la littératie nécessaire pour alimenter un réseau social de façon divertissante et qui va inviter les gens à revenir sur le site. C'est très méchant ce que j'ai dit, mais je le crois, j'y crois.
Bah, disons que même au-delà de la question de l'intérêt du contenu du réseau, moi je crois qu'il y a vraiment cette question de... comment dire, de discussion, pour dire les choses gentiment, ou même de conflit. Parce que, comme tu le dis, les trolls n'existent que si on les nourrit. L'expression bien connue « don't feed the troll » ne nourrissait pas les trolls, c'est que sans la réponse outrée qu'ils cherchent, bah, les trolls n'existent pas. Et d'une certaine manière, sur son réseau social Truth, à peu de choses près, Donald Trump n'aura que des gens acquis à sa cause. Donc, au-delà de flatter son ego avec des retruth et des like truth et des petits signaux comme ça qui apparaîtront sur chacun de ces truths, je ne suis pas convaincu que... Peut-être que ça lui suffira et qu'il gardera le truc, mais à voir. C'est une formule qu'aucun de ces réseaux n'a réussi à résoudre. Et je n'ai pas l'impression que celui-là y arrivera. Mais ça sera en même temps une question intéressante de société, presque, parce que c'est un peu le pari de Donald Trump et de son mouvement politique de pouvoir revenir sur le devant de la scène au niveau médiatique. Parce qu'évidemment, depuis qu'il a été banni de Twitter et dans une moindre mesure de Facebook, bah, il a vraiment disparu du paysage politique et du paysage... Pas politique, pas du tout, pardon. Mais du paysage médiatique, en tout cas pour ceux qui ne le suivent pas très activement. Et donc, s'il ne réussit pas, là c'est un petit peu la dernière chance après quelques tentatives ou embryons de tentatives, là c'est la dernière chance. Et si ça ne fonctionne pas, eh bien, ça veut dire que Donald Trump n'aura plus vraiment, à moins que les choses changent sur les réseaux traditionnels, n'aura plus de possibilité d'avoir un porte-voix médiatique comme il l'a eu pendant sa présidence. C'est un moment qui est plus important que juste la blague des truthers qui vont suivre Donald Trump sur Truth, quoi. Bon, un autre élément... Oui, oui, vas-y, Pascal.
Non, je me dis toujours, mais quelle chambre d'écho gênante de gens qui vont être pro-Trump et qui vont l'encenser. Mais ça va tomber. Et je prédis que des canulars vont se faire là-dessus. Je prédis que des gens vont se glisser pour lancer des trucs horribles et puis s'amuser de l'écho qui va être que ça va générer sur le réseau de Trump. Mm.
À voir, bah écoutez, on suivra ça. Il vient d'être lancé, donc évidemment, il est un petit peu surchargé en ce moment. Mais ce qui sera intéressant de voir, ça sera non pas demain ou après-demain, mais dans une semaine, un mois, deux mois, six mois, voir où il en sera. Et à propos de où ils en sont, eh ben Facebook continue sa chute vertigineuse. Ils sont sortis, enfin je dis Facebook, mais évidemment on parle de Meta, puisque c'est le nouveau nom de la société mère. Meta est sorti de la liste des 10 sociétés les plus à la plus haute valeur boursière dans le monde. Pour ceux qui ne savent pas, ils sont passés de environ 1 billion, donc 1 000 milliards de dollars de valeur boursière, à maintenant 560 milliards de valeur boursière. C'est une chute dont on aurait pu imaginer qu'elle aurait fait un rebond après le premier week-end. Vous vous souvenez que c'était arrivé suite à l'annonce de la première baisse du nombre d'abonnés actifs mensuels chez Facebook. Pour la première fois de leur histoire, il y a une ou deux semaines, ils avaient annoncé la baisse du nombre d'abonnés actifs. Et les marchés avaient réagi de manière très violente parce que le cœur du problème de Facebook, c'est qu'ils n'ont qu'une source d'activité et qu'une source de revenus et très peu de moyens d'en explorer d'autres. Leur source de revenus, c'est évidemment la publicité. Et les marchés ont donc puni cette annonce dans le contexte de plus de législation sur ces questions, les difficultés de publicité en raison de la vie privée qui est mise en avant par différents opérateurs comme Apple, évidemment, sur iOS, Mais même Google avec Android, donc ils essayent de bloquer un petit peu l'identification des utilisateurs de tous les services, y compris Facebook. Bref, ils ont continué leur chute. Aujourd'hui, ils ont donc perdu la moitié quasiment de leur valeur boursière, ce qui est du jamais vu. C'est un krach boursier à toi tout seul c'est sur Meta. Et surtout, ils ont annoncé deux choses. D'une part, bon, un changement de leurs valeurs. Ils ont aujourd'hui des valeurs, vous vous souvenez qu'ils avaient « Move fast and break things », qui était il y a longtemps la valeur de Facebook. On fait des choses vite et on casse des choses, mais ce n'est pas grave, on les répare ensuite. Il y a leur nouvelle valeur, c'est « Move fast together », donc « Bougeons vite ensemble ». Ok, c'est bien, on contourne le truc d'avant. « Live in the future », vivons dans le futur. Et le dernier, « Meta, MetaMates, Me ». Et « MetaMates », c'est les collègues, les collaborateurs de Facebook qui s'appellent les « MetaMates ». Alors, ils ont presque tous des petits noms. Hein. Google, c'est les « Googlers ». Microsoft, c'est les « Microsofties » ou « Softies ». Apple, c'est juste les employés d'Apple. Bon. Et donc, il y a ça, d'une part, qui est un petit peu… Ça fait partie du rebranding de Mark Zuckerberg et de Meta et de son métavers. Et à côté de ça, Mark Zuckerberg a donné une promotion à Nick Clegg, qui était un petit peu le monsieur affaires légales et affaires gouvernementales de Facebook, qui est maintenant au même niveau de la structure hiérarchique de Meta que Mark Zuckerberg lui-même et Sheryl Sandberg. Alors, c'est d'une part une réduction de l'importance de Sheryl Sandberg dans l'organigramme, mais c'est surtout un moyen de mettre Nick Clegg, qui était dans le gouvernement irlandais, si je ne m'abuse, avant de rejoindre Facebook. Donc, c'est un moyen de le mettre comme personne qui va gérer les affaires gouvernementales. Quand on demande à quelqu'un de Facebook de venir répondre aux questions des parlementaires, on va envoyer Nick Clegg. Zuckerberg, il a autre chose à faire. Sheryl Sandberg, elle s'occupe du produit. Et Mark Zuckerberg, c'est celui qui s'occupe de la vision. C'est un petit peu un triumvirat maintenant qu'ils ont établi. Mais je me demande si tu seras d'accord avec moi, Pascal. Du coup, ils mettent Nick Clegg comme bouclier.
Exactement.
Ouais.
Tu dis Mark Zuckerberg a autre chose à faire. Je pense qu'il veut surtout faire autre chose. Il ne veut pas s'occuper de cette partie. Et quelqu'un d'un peu plus charismatique, un peu plus sympathique va diminuer la tension. On s'entend que Zuckerberg n'est pas le porte-parole le plus très robotique, très froid, pas très sympathique. C'est pas la meilleure personne pour répondre aux questions publiques.
C'est sûr.
De Facebook. Donc, c'est pas nécessairement de mauvaise personne, dans l'absolu, mais...
c'est lui qui a les mains sur le produit, donc c'est à lui qu'on peut poser des questions quand c'est des questions importantes, mais c'est vrai que là, c'est Nick Clegg qui va être devant les
caméras, les micros, ouais. Peut-être des entrevues. Je prédis d'ailleurs que des entrevues vont se faire dans les grands magazines techno qui vont expliquer la nouvelle position, la transition, où est-ce qu'on s'en va. Et je trouve très drôle de dire leur nouveau slogan, « Bouger rapidement ensemble, vivre dans le futur ». Vivre déconnecté. Non, si on oublie ça, on veut être dans le métavers le plus possible. Mais cet changement de stratégie de Facebook, et peut-être que dans 10 ans, on va se dire, ils avaient raison de se réinventer. Dans les notes du podcast, tu parles de MySpace, qui est devenu complètement désuet à partir d'un certain moment. Les communautés Google sont complètement devenues désuètes à partir d'un certain temps. Est-ce que Facebook, en se réinventant maintenant, ne se donne pas justement du temps pour voir venir? Perdre la moitié de sa valeur, c'est quand même une entreprise de 500 milliards de dollars. Ce n'est pas une petite entreprise. Et puis, ils peuvent voir venir, se réinventer. Et dans 5 ans, peut-être qu'on va réaliser que leur stratégie du métavers était justement, ça les place au bon endroit pour rebondir peut-être encore plus fort qu'ils étaient à leur sommet.
Bah, c'est un peu une chose qui m'irrite, moi, régulièrement. D'ailleurs, je fais parfois des tweets énervés sur le sujet, sur la question du métavers. J'en ai parlé dans l'émission, mais je vais répéter très rapidement. Il y a des gens qui disent, qui rient du métavers aujourd'hui en pointant du doigt des choses comme Second Life ou même Fortnite, et qui disent « Ah ben voilà, le métavers existe déjà, Facebook n'invente rien, Zuckerberg est ridicule. » Et beaucoup de gens oublient que, bon, d'une part, Zuckerberg, c'est pas la moitié d'un con. Il est, pour tous ses défauts, et Dieu sait qu'il en a, c'est pas quelqu'un qui est idiot, et c'est quelqu'un qu'il serait une grave erreur de sous-estimer. À côté de ça, le métavers n'existe pas aujourd'hui. Il y a vraiment cette mécompréhension, alors que, encore une fois, malgré tous ses défauts, il a été très, très clair dans ses explications de son imagination, de son idée du métavers, Zuckerberg. Et aujourd'hui, il n'existe pas ce métavers. Il y a énormément de défis technologiques pour réussir à le réaliser. Des défis technologiques qui ne sont pas faciles. Il faut avoir la modélisation photoréaliste de personnes et de lieux qui existent ou qui n'existent pas. Il faut pouvoir équiper des appareils qui ressemblent à des lunettes d'écran qui pourrait bloquer complètement la vue si nécessaire pour afficher ces éléments photoréalistes et qui soient des appareils assez légers et assez puissants pour le faire sans batterie externe ou ce genre de choses. On n'y est pas du tout. C'est un truc qui est à l'horizon 5-10 ans minimum. Et le fantasme, enfin disons l'idée est ultime, c'est un petit peu l'équivalent de la téléportation, en fait. Au même sens que, c'est ce que je disais dans mon flux Twitter, aujourd'hui, l'Internet, ce que ça permet, c'est l'omniscience, en quelque sorte. C'est qu'on peut savoir quasiment tout sur quasiment tout en un instant. C'est vraiment, on a dans notre poche un outil d'omniscience. Eh bien, le métavers permettrait l'omniprésence, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'on pourrait, à n'importe quel moment, être n'importe où. Plus ou moins. Ah, y a des petits astérisques partout, mais on pourrait mettre ses lunettes et se retrouver dans un stade avec ses amis, autour d'une salle de... Mais vraiment de manière photoréaliste. Et si on arrive à ça, évidemment que le potentiel est énorme. Et dire aujourd'hui on est dans le métavers, c'est comme regarder un oscilloscope et dire « Ouais, en gros, c'est la télé ». Non, c'est ridicule. Ça veut juste dire que vous ne comprenez pas de quoi il s'agit. Tu vois, c'est juste que les gens ne comprennent pas quand ils disent ce genre de choses. La seule chose qu'ils montrent, c'est qu'ils n'ont pas compris de quoi on parle. Alors, peut-être que ça ne va pas se faire, évidemment. Peut-être qu'on n'y arrivera pas, que technologiquement, ça n'est pas possible. Peut-être que ça n'aura pas d'utilité, on n'en sait rien. Mais plusieurs grandes sociétés s'y intéressent pour le cas où ça fonctionne, parce que si ça fonctionne, c'est un potentiel monumental. Et effectivement... Peut-être que dans 5 ou 10 ans, on regardera le pari de Zuckerberg sur le métavers et on dira « Bah en fait, c'était pas si bête que ça. » Et au contraire, c'était prescient parce qu'il a compris que c'est vers ça qu'on allait. Et peut-être aussi que ça fera plouf et que tout le monde s'en foutra et que ça ne servira à rien. C'est possible. Mais aujourd'hui, on ne sait pas, vraiment.
On voit l'argent que les gens investissent dans des costumes, des skins pour leurs jeux vidéo, de l'argent virtuel pour se vêtir dans le virtuel. Imagine quand dans le métavers, on va devoir remplir son environnement de choses, on va pouvoir... Il y a un potentiel de monétisation énorme. Et moi, j'ai compris le métavers quand tu dis qu'il faut comprendre qu'est-ce que c'est le métavers et que tu montres l'oscilloscope et tu dis voici ce que ça va être la télé, c'est sûr qu'on se fout de l'oscilloscope. Mais moi, j'ai eu une expérience assez révélatrice quand j'ai essayé le HoloLens de Microsoft. Et j'ai pu voir, et c'est encore très embryonnaire comme technologie, mais j'ai pu voir le fait d'ajouter des objets virtuels dans l'univers réel. J'ai vraiment vu, OK, d'accord, c'est ça. C'est plus que les lunettes de réalité virtuelle. C'est beaucoup plus que ça. C'est vraiment d'intégrer du virtuel dans son réel. Comme tu dis, de pouvoir voir des objets partout, ça va être extrêmement... emballant comme potentiel, mais il faut réussir à un, le monétiser et deux, susciter suffisamment d'intérêt pour que les gens se mettent à porter ça au quotidien.
Pour aller plus loin dans l'explication, ce que tu dis, c'est exactement ça. C'est-à-dire que on a la marche de la tech, ça a été la marche de la numérisation de tout. Tout a été numérisé petit à petit. il y a une vingtaine d'années, on commençait à peine à entrevoir la numérisation de la musique, des photos, des livres, du film physique, des bobines de films au cinéma. Et tous nos médias, toute une bonne partie de notre activité a été numérisée. Et aujourd'hui, quand on voit ce qui s'est passé quand la musique a été numérisée, alors oui, il y a encore à la marge de la musique physique, mais quand la musique a fini par être numérisée efficacement, eh ben ça a en quelques années remplacé entièrement la musique physique. Pareil avec les séries, enfin la télévision, pareil avec les livres. Encore que les livres, il y a un plaisir physique qui est un peu différent. Donc, ce n'est pas à 100% pour tout, mais énormément de gens lisent leurs livres en numérique aujourd'hui. Pareil pour les BD. Enfin bref, la marche de la tech ces 20 ou 30 dernières années, ça a été la numérisation de tout. Le métavers, pour le dire sans buzzword, c'est la numérisation de la présence. C'est ça que ça permet, la numérisation de la présence. C'est-à-dire qu'on peut manipuler numériquement la présence. On peut simuler sa présence quelque part, dans un sens comme dans l'autre. Les gens vont nous percevoir comme présents là où on n'est pas vraiment, et nous, on va pouvoir percevoir l'espace où on n'est pas présent. C'est pour ça que je parle de téléportation. Et ça, c'est quelque chose qui, encore une fois, a un gros potentiel. Et je veux répondre à la chatroom deux choses importantes. On nous demande, est-ce que ça sera distinct de Facebook ? Et certains répondent, non, l'idée, c'est de tout fusionner. Pas du tout. Là encore, Mark Zuckerberg a été très clair dans sa vision de la chose. Il n'est pas la moitié d'un con. Il sait que pour que ça prenne, il faut qu'il y ait des standards et que tout le monde soit en train de développer dans le même cadre, de la même manière que le web a permis aux sites et aux services qui se reposent dessus de fleurir parce que tout le monde utilisait les mêmes choses avec des standards ouverts. Et bien là, c'est le but qu'il a expliqué, c'est qu'on établisse tout un tas de standards ouverts et il espère que Meta va en bénéficier en étant dès la ligne de départ et même peut-être un petit peu avant, de la même manière que Google bénéficie du fait que plus de gens utilisent Internet, parce que Google fait de l'argent quand des gens utilisent Internet dans leur ensemble. Et le but de Google avec des outils comme Chrome ou comme Android, c'est de mettre de plus en plus de gens possibles sur Internet. Alors évidemment, après, ils ajoutent des petites choses pour en tirer plus d'avantages que d'autres. Mais le but, à la base, c'est de faire en sorte que le plus de gens possibles soient sur Internet. Et bien là, le but de Zuckerberg, c'est que le plus de gens possibles aient accès au métavers quand il existera, et pour ça, il faut que ça soit ouvert, il faut que tous les services soient interopérables, que les modèles qu'on va acheter à un endroit du métavers soient utilisables ailleurs, etc. etc. Alors, oui. Est-ce qu'on va y arriver ? On n'en sait rien, mais l'idée, c'est ça. Et il y a beaucoup de mécompréhension sur le but ultime de ce métavers.
J'ai bien de voir si, au contraire, la guerre ne sera pas pour des exclusivités d'objets. Il va falloir aller sur Meta pour avoir certains objets, un peu la guéguerre avec Spotify et ses exclusivités au niveau des podcasts. Donc, est-ce que le futur du métavers sera ouvert ou, au contraire, fermé? Très bonne question.
Ça, c'est un truc qu'on peut construire ensuite sur les bases. Tu vois, il y a deux couches.
Oh, il faut une base. La base va être solide, mieux ça va fonctionner.
C'est ça. Il faut une base technologique commune qui soit interopérable. Et après, on construit ce qu'on veut dessus. Mais de la même manière que la base technologique du web, du World Wide Web, est commune et interopérable et construite sur des standards. Et effectivement, je crois qu'une bonne partie de ce qui deviendra peut-être le métavers à terme doit être commune et interopérable. Dans ce sens-là, l'optique de Zuckerberg est plus saine, je pense, que ce qu'on voit du côté d'Apple, qui prépare eux aussi, parce qu'ils sont typiquement comme Apple en sous-marin depuis des années, mais ils préparent l'arrivée de leur casque de réalité augmentée et de réalité virtuelle. On imagine cette année, l'année prochaine, que ça commencera, mais ils préparent ça depuis longtemps, avec leur AR kit et leurs outils aux développeurs de réalité augmentée. Sauf que là, c'est des standards très propriétaires à Apple. Dans une grande partie. Et ça, c'est compliqué pour lancer une plateforme technologique commune. ça fonctionne pas quand il y a beaucoup de propriétaires. On l'a vu avec les objets connectés, par exemple. Enfin, après des années et des années, les grands acteurs du domaine sont en train de se réunir pour faire un standard commun qui permettra peut-être de développer la chose au-delà des silos de telle et telle société. Et tout le monde en bénéficie quand, à ce niveau du développement d'une industrie, on a des standards communs. Bon.
Non, mais c'est très philosophique, mais c'est très vrai que, puis je reviens sur l'intérêt du consommateur, je reviens sur l'intérêt de l'utilisateur. Plus c'est ouvert, plus c'est bénéfique, et les entreprises vont peut-être faire des versions restrictives de leur système et tout, mais à long terme, ils se tirent dans le pied pour, le développement, puis l'accessibilité, et puis la croissance de ce domaine-là.
Imagine, tu as une paire de baskets que tu peux obtenir si tu, je ne sais pas, vas suivre un match de foot dans le stade Facebook pour la Coupe du Monde 2034. Tu vois, tu auras ta paire de baskets exclusive, mais après, tu pourras aller l'utiliser partout, ou peut-être pas partout.
Exactement.
Mais tu pourras juste l'avoir chez Facebook ou l'utiliser partout. Après, on a le choix. Mais s'il n'y a pas cette option d'avoir cette interopérabilité, bah, les gens vont être moins intéressés d'avoir la paire de baskets Facebook s'ils ne peuvent pas la montrer à leurs amis qui sont dans le Googleplex virtuel pour leur réunion, tu vois, pour leur meeting de boulot. S'ils peuvent avoir les pieds sur la table avec les baskets exclusives qu'on ne peut avoir que en regardant la Coupe du Monde dans le stade Facebook, bah, ils seront moins intéressés. Donc, l'interopérabilité oui. amène des opportunités pour tout le monde.
On veut des opportunités.
Bon, on verra où on en sera dans une dizaine.
Nous voulons des opportunités, d'années. Nous les voulons maintenant.
Écoutez, moi, ce que je veux maintenant, c'est vous proposer vous dire que vous n'avez pas besoin d'attendre le métavers pour soutenir l'émission que vous appréciez, le Rendez-vous Tech. Vous pouvez soutenir cette émission par vous-même, tout de suite sur patreon.com/rdvtech. Et vous n'aurez pas des baskets exclusives du métavers, non. Mais par contre, vous aurez des contenus bonus, des émissions sans pub, totalement sans pub, même sans cette petite partie Patreon en plein milieu. Et vous aurez, en plus de ça, des émissions bonus, des éditos dans lesquels je vous parle de ma vie, mon activité professionnelle, etc. Mais surtout, bon, l'émission sans pub, c'est quand même très cool, hein, mais surtout, vous aurez la fierté de soutenir un créateur que vous appréciez. Vous ferez comme les soutiens qui se sont déjà un petit peu engagés. Alors, je dis engagés, mais ce n'est même pas vraiment le cas, hein. Vous décidez de donner, par exemple, le prix d'un café par semaine et vous êtes facturé à la fin du mois, tout simplement. Et vous pouvez vous désengager quand vous voulez. Donc, il n'y a vraiment aucune contrainte. On est dans un monde de service aux auditeurs. Et si vous choisissez de le faire, vous aurez donc tous les bonus et puis la fierté de soutenir quelqu'un que vous appréciez. Si vous écoutez depuis, je ne sais pas, 6 mois, 7 mois, 1 an, peut-être que ça veut dire que vous appréciez suffisamment l'émission pour que ça vaille, comme je le disais, le prix d'un café pour vous. Donc, vous pouvez aller sur patreon.com/rdvtech. Et soutenir le Rendez-vous Tech. On vous remercie tous et toutes.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bon, on a couvert les gros sujets et maintenant, on peut passer au reste de l'actu plus détendu. On part de sujets un petit peu plus tranquilles. Mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas des sujets intéressants.
Des sujets captivants, des sujets de controverse, des sujets amusants.
Oui, exactement. Alors, peut-être une petite controverse sur le travail d'une intelligence artificielle. À ton avis, une œuvre composée par une intelligence artificielle peut-elle être copyrightée? Est-elle soumise aux droits d'auteur? Qu'est-ce que tu en penses? La décision du US Copyright Office est hyper intéressante, mais je suis curieux de savoir ce que tu en penses, toi, parce que c'est une question bizarre, enfin, qu'on n'a jamais eu à se poser, quoi.
C'est très délicat parce que entre quelque chose qui est généré avec un algorithme aléatoire et qu'on imprime de temps en temps et qu'on tente de breveter, et quelque chose fait par une intelligence artificielle qu'on tente de breveter, je peux comprendre que ce serait trop facile de générer des centaines, des milliers, des millions d'œuvres copyrightées. Ouais. On voit ce qui se passe avec les NFT. N'importe qui fait des variantes de dessins, de trucs, une petite variante, revend différemment. Je trouve que c'est une... On évite de se lancer dans le délire de milliers de demandes de copyright pour des trucs qui sont... à la base, sans intérêt,
bah, sans intérêt.
Sans intérêt, peut-être pas sans intérêt, ouais, mais peu d'intérêt, disons.
Mmh. Bah, c'est une question qui est vraiment intéressante. C'est un chercheur qui s'appelle Stephen Thaler, qui a conçu un algorithme qui s'appelle la Creativity Machine, la machine à créativité, et qui a créé donc des œuvres par cette machine avec vraiment l'idée de s'effacer, d'effacer la décision humaine autant que possible. Et donc, l'œuvre en question, c'est une image qui a été générée donc, par cette intelligence artificielle qu'il a appelée, comment il l'a appelée ? A Recent Entrance to Paradise, qui est un truc un petit peu psychédélique avec une sorte de chemin de fer et un tunnel et un train qu'on voit dans le fond avec plein de couleurs un petit peu bizarres. Et donc, le US Copyright Office, le département du copyright aux États-Unis, a décidé que ça n'était pas copyrightable, mais ils ont motivé leur décision de manière intéressante. Ils ont dit, c'est parce qu'il n'y a pas d'intervention humaine. Et l'élément d'intervention, de authorship, de création humaine, est essentiel pour l'établissement du copyright. Parce que, évidemment, le cauchemar dont tu parles, c'est que si tout à coup n'importe quelle IA peut, le travail de n'importe quelle IA peut être copyrighté, bah ça va faire du boulot pour les gens qui bossent dans ce genre de choses. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est une question qui s'est déjà posée par le passé avec la peinture d'un singe. Il y avait eu une histoire de procès, il y a des gens qui avaient essayé de copyrighter, d'attribuer le copyright au singe, et le copyright avait été refusé pour les mêmes raisons, parce qu'on avait dit bah, il faut que ça soit géré avec une intention humaine, en fait. Et donc, ça ne veut pas dire que le travail d'une IA, s'il y a plus d'intervention humaine, ne pourrait pas être copyrightable. Donc, la question n'est pas complètement tranchée, mais je trouvais le raisonnement assez intéressant. Parce que c'est vrai, finalement, le copyright, au-delà des questions pratiques des milliards d'œuvres à copyrighter, bah, on a fait ça pour les humains. Je ne sais pas si un jour, est-ce que les IA pourront copyrighter leur travail ? Est-ce que ça veut dire aussi qu'un travail qui a été fait par une IA que tu as conçu justement dans le but de faire une œuvre artistique que tu vas ensuite licencier, bah, tu ne peux pas le copyrighter. Donc, tu ne peux pas monétiser la chose ensuite efficacement. C'est plein d'implications, tout ça.
J'ai hâte de voir. Peut-être que c'est les intelligences artificielles elles-mêmes qui vont faire le copyright, les droits d'auteur. Donc, c'est une intelligence artificielle qui va évaluer les demandes de droits d'auteur d'autres intelligences artificielles. Et là, l'humain va être complètement détaché de l'équation. Et là, ce sera leur problème. Hein. S'ils veulent accepter n'importe quoi, ce sera le problème des intelligences artificielles. Voilà.
Ouais, on va pas s'emmerder à essayer de voir ce qui se passe dans leur monde à eux. Hein,
est-ce que c'est eux, hein, ils font ce qu'ils veulent. Hein.
Jusqu'à ce que ils décident de prendre en main le US Copyright Office, ils vont dire non mais mettez-vous par là, c'est bon, nous on va prendre ça en charge.
Exactement. Terminator arrive et puis.
Reposez-vous, c'est bon, vous avez bien travaillé.
Et nous sommes cuits.
On me rappelle dans la chatroom, enfin, on mentionne dans la chatroom quelque chose qui est évidemment vrai. L'intelligence artificielle et l'IA elle-même sont, alors peut-être que c'est du copyright, mais peuvent être soumis, encore que les programmes ne peuvent pas être copyrightés, mais on peut mettre des protections sur le travail qui est fait en amont, évidemment, du travail produit par l'IA. L'Union européenne a approuvé un projet de satellite Internet qui est comparable à ce qu'on voit du côté de Elon Musk et de SpaceX, de Starlink, vous savez. Et c'est un projet qui va coûter presque 7 milliards de... qui va coûter 6 milliards d'euros, mais qui va envoyer donc un certain nombre de satellites. C'est des systèmes qui envoient des centaines, des dizaines, des centaines de satellites à orbite relativement basse, qui va donc avoir un équivalent européen, ce qui est évidemment quelque chose d'incroyablement important pour la souveraineté et l'autonomie régionale. Bon, il n'y a peut-être pas grand-chose à dire là-dessus, mais j'imagine qu'au Canada, vous vous reposez beaucoup sur les projets américains. Je ne sais pas si vous avez ce genre
oui,
de projet.
Oui, tout à fait. Je voyais récemment que le système Starlink d'Elon Musk fonctionne très bien. Les gens sont extrêmement satisfaits du service, qui est beaucoup plus rapide que ce à quoi les gens s'attendaient. En région éloignée au Canada, d'avoir accès à Internet relativement rapide, c'est une révolution complète. Il y a beaucoup de coins au Canada où il n'y a pas encore d'accès à Internet rapide assez pour ou peu coûteux. Donc Starlink, c'est un truc qui change complètement la vie des gens. La question que je me demande pour le système européen, c'est que une des possibilités, la constellation de satellites fonctionne tout autour du globe. Si le système est conçu pour l'Europe, est-ce que le reste du monde va quand même pouvoir bénéficier des connexions? Parce que ça permettrait de rentabiliser le service partout sur la planète et non seulement que lorsque les satellites passent au-dessus de l'Europe.
Ah ben j'imagine que
pour
oui,
rentabiliser le service, on le souhaite. Il faut que le service soit offert partout sur la planète si on veut rentabiliser. Sinon, les satellites ne fonctionnent, ne sont en opération que lorsqu'ils sont au-dessus de l'Europe. On coupe, c'est moins rentable. Tandis que Elon Musk va toujours avoir l'avantage compétitif de pouvoir offrir ses services tout autour de la planète, peu importe qui en fait la demande.
Je pense pas qu'on va mettre 4000 personnes qui vont être dédiées à l'extinction d'un satellite, tu sais, t'as un petit interrupteur. Clic, attends, il est plus sur l'espace.
Il est plus là. On vend pas les services en dehors de l'Europe. Alors, si t'es au Canada, non, tant pis. Tu vois le satellite, il passe au-dessus de ta tête, mais tant pis. Non.
Je pense que évidemment, l'idée est d'avoir une structure sur laquelle l'Europe a le contrôle. On parle de questions d'autonomie et d'indépendance. Sur laquelle l'Europe a le contrôle, mais il n'est pas du tout exclu qu'elle soit utilisée ailleurs aussi. C'est vraiment une question d'infrastructure, effectivement.
Est-ce que ça pourrait être une question d'interopérabilité, encore une fois? Si une partie des satellites, s'il y avait une collaboration, ce serait fantastique. Une partie des satellites sont lancés par l'Europe. Si jamais il y a un conflit, quelque chose, un problème économique, boum, on a notre service, mais dans un meilleur des mondes, les satellites européens fonctionnent avec le réseau de Starlink pour une meilleure couverture pour tout le monde. Et là, encore une fois, on est vraiment dans une vague positive ce matin, je trouve, Patrick. C'est magnifique. On veut le bien de l'humanité, le bien des auditeurs, le bien de toute la planète.
Eh bien, effectivement, comme le dit la chatroom, on a des îles un petit peu partout sur la planète, en Europe, vu le passé peu glorieux colonialiste. Donc, il y a toujours un territoire ou un département qui a besoin d'être couvert. Donc oui, le satellite fonctionnera partout, c'est certain.
Oui, mais est-ce qu'on va rentabiliser le service avec Saint-Pierre et Miquelon? Je vous le demande. Je ne crois pas que ça va être un apport de revenus significatif.
Effectivement. Bon, écoute, on verra quand ça sera lancé. Et à propos de revenus significatifs, il y a eu, pour le dernier match important d'il y a quelques jours, le PSG-Real Madrid, le streaming illégal qui était bloqué au niveau des opérateurs. Et c'était une chose qu'on attendait pour voir si ça fonctionnerait ou pas. C'était une décision de justice, enfin de l'administration, évidemment. pour protéger les droits payés extrêmement cher par les chaînes traditionnelles. Et on a constaté qu'en réalité, bah, ça n'a pas vraiment fonctionné parce que ce qui était fait pour bloquer les sites de pirates qui streamaient les matchs de foot, ça a été de bloquer leur URL au niveau de la DNS. Qu'est-ce que c'est que la DNS ? C'est le serveur Internet qui traduit l'URL, donc le nom www.sitedestreamingpirate.com en numéro, en chiffres, donc l'URL 128.164.12.4, que votre ordinateur peut comprendre. Et donc, s'il n'a pas accès à ce serveur DNS, eh ben, vous pouvez lui rentrer le nom de serveur, le nom de site que vous voulez, il ne pourra pas y accéder. Sauf que il y a des DNS, des serveurs DNS disponibles partout et très facilement accessibles. On peut très facilement changer dans son ordinateur la DNS. Il y a Google qui en fournit un, il y a des serveurs gratuits qui sont disponibles partout. Donc, si on ne veut pas utiliser le DNS de Orange, de SFR, de Bouygues ou de Free, ben, on peut très facilement changer le DNS. Et il se trouve que les personnes qui utilisent ce genre de service pirate, eh ben, ils sont généralement très habitués à changer de DNS. Mmh. Donc, ils l'ont fait sans aucun souci. Et même sans ça, les matchs étaient streamés sur Twitch. Alors, sur Twitch, ils étaient, les gens qui streamaient ça se faisaient bannir très rapidement. Mais ils étaient aussi même diffusés sur Twitter. Donc, il y avait partout des moyens de voir le match. Et il semblerait qu'en gros, les gens qui regardent généralement, en tout cas qui ont un tout petit peu de connaissances, qui regardent généralement les matchs en piraté, n'ont pas eu de problème à regarder, à voir le match, le but de Mbappé. Donc voilà, l'expérience était peut-être pas très étonnamment assez peu concluante pour les ayants droit. Et c'était la première fois. Hein. N'oubliez pas que ça, plus ça va, ce genre de choses, plus les gens s'habituent aux manières de contourner les restrictions. Donc voilà, a priori, ça fonctionne pas très très bien. Ça veut peut-être pas dire qu'il faut pas faire respecter la loi, mais quand même.
Et tout ça parce que les ayants droit ne diffusent pas de façon simple et peu coûteuse des trucs comme ça, ce qui pourrait être une belle façon de faire connaître leur service et tout.
Je me permets
de réfléchir là-dessus. Si c'était pour des grands événements, des finales d'événements sportifs, je pense au Super Bowl américain, je pense à la finale de la Coupe Stanley au Canada, qui est très écoutée, d'offrir, d'ouvrir la machine et de permettre à tout le monde ça serait très festif, ça éviterait le streaming illégal. Et encore une fois, un peu ce qu'on disait avec Spotify et sa stratégie de podcast, si c'était offert en payant, c'est offert sans publicité, de façon plus directe avec des bonus. Et la plupart des gens pourraient l'écouter gratuitement avec des publicités, puis peut-être certains éléments. Je crois que ça pourrait être une piste à explorer, mais faut rentabiliser.
J'entends bien ce que tu dis, oui, le problème c'est ça, c'est que tout ça c'est très sympa, le fait d'offrir tous ces contenus gratuitement au monde, mais comment ensuite est-ce qu'on monétise tout ça, Pascal? Exactement. C'est la partie de l'équation que tu oublies.
Et la question c'est pourquoi offrir, je pense à Joe Rogan, pourquoi offrir 200 millions alors qu'on aurait pu offrir 50 millions, alors qu'on aurait pu diminuer les enchères peu. Il y a toute cette surenchère au niveau des exclusivités des droits qui est devenue un peu complètement délirante. Et oui, comme tu disais, ça se rentabilise bien. Mais je crois que peut-être, justement, si c'est bien rentabilisé, facile à rentabiliser, il y a possibilité de stimuler la demande en offrant de façon gratuite ou du moins simple certains trucs en écoutant des pubs. Oui.
Alors, simple, c'est peut-être une autre question. Effectivement, la simplicité, on l'a vu dans la technologie, augmente la surface de monétisation de manière assez claire.
Bon. Imagine une promo très simple ou une chaîne de livraison de pizza. Si tu commandes une pizza, tu as un code d'accès pour le match, quelque chose comme ça. Tu achètes 6 bouteilles de boissons gazeuses, tu as un accès au match.
Tu sais quoi?
Il y a des possibilités comme ça de Je sais pas. Je sais
Pascal,
pas.
Je pense qu'on va proposer à la FIFA de te nommer président de la stratégie de monétisation.
Je ne sais pas de quoi je parle. Je parle au travers de mon chapeau.
Non, mais je crois qu'il y a effectivement des choses très justes dans ce que tu dis, mais je pense à l'écosystème des podcasts qui, justement, parce qu'il n'a pas de surface de monétisation, et a mis beaucoup de temps à se développer, et même encore aujourd'hui, compte, je ne dis pas qu'il est facile d'être Twitcher ou YouTuber, mais compte beaucoup, beaucoup moins de créateurs qui trouvent le succès professionnel que ses autres activités. Il y a un coût à toute cette idée de facilité d'accès et de « on se tient la main et tout est gratuit et on fait juste ça pour le plaisir
». Vivons nus, mangeons de la nature, si généreuse.
Bon, c'est un sujet qu'on pourra explorer peut-être un autre jour. Un mot sur les NFT, oui, il ne se passe pas un épisode sans qu'on parle de NFT, mais un mot pour dire que je commence à voir les prémices d'un mouvement, d'une part, de législation sur les NFT, on en voit de plus en plus. Parfois, ça légitimise l'activité avec une taxation qui est associée, ce qui est évidemment intéressant pour les États qui légalisent la chose. Mais on voit aussi, beaucoup plus intéressant pour moi, on a vu deux ou trois initiatives différentes des grands acteurs de l'univers des crypto-monnaies et du NFT qui se fédèrent pour instaurer des certifications, des standards, des moyens de, d'amener un petit peu de sécurité et de certitude autour de cette activité. Je crois que c'est peut-être le début d'une rationalisation de cette industrie qui a évidemment énormément de problèmes par ailleurs. Mais le dernier qu'on a vu, c'est une série de plateformes d'échange qui fait ce qu'il faut pour être compatible avec Trust, qui est une plateforme, une série d'accords qui s'appelle Trust, qui va faire en sorte qu'on peut suivre les échanges pour éviter le blanchiment, qui est un gros problème sur ces monnaies. Alors, ça peut nuire à la décentralisation, ça peut nuire à l'anonymat, qui n'est d'ailleurs pas très grand dans ce monde-là, malgré ce qu'on peut penser. Mais c'est, pour moi, le début peut-être d'une tendance à la rationalisation de cette industrie qui pourrait bénéficier à son essor à terme. Quoi.
Oui. L'achat des NFT, c'est toujours... toujours un peu incompréhensible d'un côté, la crypto-monnaie et tout. On va voir qu'est-ce que ça va
donner. Ça reste... Là, on parle plus de crypto-monnaie. Quand on parle de
NFT... Parce que si, oui, tout à fait, excuse-moi.
Non, mais quand on parle de NFT, il y a aussi, par exemple, Universal qui s'associe à des marchés de NFT pour vendre des NFT pour leur Universal Music, hein, pour leurs artistes. Il y a dans le football beaucoup de NFT aussi. Mais bon... Tout ça pour dire, pour moi, vraiment l'aspect intéressant, c'est l'aspect de toutes ces plateformes qui commencent à se parler et à se dire, bon, on a une très mauvaise image et pour des raisons très justes, et peut-être qu'il faut qu'on se mette d'accord pour faire les choses un petit peu mieux. Donc peut-être que ça donnera quelque chose. Pour les semi-conducteurs, sur l'année dernière, en 2021, on a eu une croissance d'une année sur l'autre de 26,2%. Et sur cette année, on devrait limiter la croissance à seulement 8,8% sur 2022. Pourquoi est-ce une bonne nouvelle ? Je vous le demande. Eh bien, ça pourrait être une bonne nouvelle parce que ça veut dire que les pénuries de puces pourraient commencer peut-être à atteindre le début de la fin de la pénurie. Parce que la croissance est moins... La croissance continue, hein, la demande continue à augmenter, mais on parle de vente spécifiquement ici, donc la demande continue à augmenter, mais la croissance est moins importante. On a fait quand même 26,2% sur 2021. Rien qu'en une année, une croissance de plus de 25%, c'est impressionnant. Moins de 10% cette année, peut-être que ça ira mieux. Et à côté de ça, Intel vient d'annoncer le lancement pour le premier trimestre de leur coprocesseur graphique, Arc, mais uniquement pour les mobiles. Ils arriveront pour les ordinateurs de bureau au deuxième trimestre. Donc, on a un nouvel acteur dans les processeurs graphiques qui arrive maintenant. Et en 2022, on devrait également voir les processeurs M2 pour Apple, donc les processeurs Apple de type M2 qui devraient être encore beaucoup plus puissants dans des MacBook Pro, des iMac Pro et même des Mac Pro qui pourraient arriver dans l'année. Bon, voilà pour les news processeurs.
J'ai bien hâte de voir si les autres manufacturiers vont réussir à rattraper l'écart qu'ils ont avec les processeurs d'Apple qui sont extrêmement performants pour une faible quantité d'énergie. Bien hâte de voir au niveau des processeurs mobiles, des processeurs d'ordinateurs. Et si la tendance du chacun créer son propre processeur va se poursuivre. Avec Google qui, sur ses téléphones Pixel, ont leur propre processeur. Est-ce que d'autres manufacturiers vont pousser la tendance? Est-ce que Microsoft va lancer son propre processeur et ainsi de suite? Bien de voir.
Tout à fait. On va continuer à suivre ça. Et puis, allez, dernier petite news pour les systèmes d'exploitation. Windows 11 Pro. Alors, il y a deux versions de Windows 11. Windows 11 à la maison, enfin Windows 11 Home, et Windows 11 Pro. Et dans Windows 11 Home, on devait déjà lancer l'installation avec un compte Microsoft. Mais dans la version Pro, ça n'était pas nécessaire. Eh bien, avec les prochaines versions de Microsoft, de Windows 11 Pro, il sera nécessaire d'avoir un compte Microsoft à moins qu'on ne soit pas connecté à Internet. Mais c'est une étape de plus dans l'implémentation du compte Microsoft pour Windows, qui n'est pas 100% nécessaire, mais on se dirige un petit peu dans cette direction. Et puis, si vous avez des vieux PC que vous ne voulez pas mettre sous Windows 11, Google est en train de créer quelque chose d'assez intéressant. C'est Chrome OS Flex, que je ne dise pas de bêtises, c'est bien ça, Chrome OS Flex, qui est une version de Chrome OS qui peut s'installer sur des vieux PC et des vieux Mac. Donc, si vous avez un vieux PC qui ne tourne plus très bien ou un vieux Mac qui ne tourne plus très bien et que vous voulez continuer à l'utiliser, eh bien, vous pourrez installer Chrome OS Flex dessus et vous pourrez continuer à l'utiliser parce que Chrome OS Flex est un système d'exploitation beaucoup plus léger que vos systèmes d'exploitation Mac ou PC. Je trouve l'idée assez intelligente, mais bon, à voir si les gens l'utiliseront vraiment.
Ça va être très, très utile pour les écoles, les organismes communautaires, simplement avoir un deuxième PC pour les enfants. Qui ne sera pas nécessairement un ordinateur coûteux qu'il va falloir acheter. Je trouve que c'est une belle approche.
Ouais, si on veut convertir un parc à Chrome OS, ben, on a un parc de vieux PC, ça peut être hyper utile. On peut même imaginer des parcs de machines qui sont renouvelés tous les 3 ans, par exemple, dans une société et qui voudraient les donner, mais l'école utilise Chrome OS et pas Windows, comme c'est souvent le cas. Ben, on peut les reconvertir en Windows. C'est pas bête, je trouve ça assez malin. Bon, par contre, j'imagine qu'il y a beaucoup de gens qui seront assez mécontents de cette histoire de Windows Pro avec compte Microsoft. Bon, on commence à se diriger dans un monde.
On a besoin d'un compte pour les Mac et personne ne se plaint, non?
Je crois que ce n'est pas nécessaire. Je crois que tu peux créer un compte local simplement, sans le connecter à ton ID Apple. Bon, je pense que dans le cas d'un Mac, il y a vraiment peu d'intérêt à ne pas être connecté au... À son compte.
C'est ça, tout dépend tellement de l'écosystème. Je crois qu'il faut quand même créer un compte d'utilisateur. Et je crois que l'expérience, le fait que le compte soit enregistré, que tes préférences soient sauvegardées, c'est pas une mauvaise chose dans un contexte professionnel. Si ton ordinateur brise, tu peux toujours te connecter avec ton identifiant et retrouver tes préférences, tes favoris. Ça sauve. C'est un gain de temps, à quelque part. Il faut voir l'avantage pour le consommateur.
C'est un utilitaire, effectivement. Et ça donne plein d'informations à Microsoft aussi.
Oui, tout à fait.
Il n'y a rien sans rien. On nous dit dans la chatroom, mais par rapport à Chrome OS Flex, tu peux déjà récupérer ton vieux PC en installant une distribution Linux dessus. C'est vrai.
Tout à fait.
Et je pense que
Ubuntu,
Je pense que ce sont les gens qui font ce genre de remarques tout à fait judicieuses qui se plaindront également du fait qu'on doive avoir un compte Microsoft sur notre installation de Windows 11 Pro si on est connecté à Internet. Bon, bah écoutez, je pense que c'était un bel épisode du Rendez-vous Tech qu'on a vécu ensemble, tous, et un petit peu plus intimement, nous deux avec la chatroom sur Twitch, comme tous les mardis midi, et encore plus intimement, toi et moi, Pascal, quel bon moment partagé. Est-ce que tu pourrais nous dire...
dans la ASMR.
on peut recommencer un petit peu, attends, voilà.
Ouais, moi, Patrick.
Alors... dis-moi, Pascal, où est-ce qu'on peut...
Non, pour moi, il est 7h du matin. Hein. C'est tôt. C'est tôt pour de l'érotisme comme ça. C'est fou, là. Des sensations étranges. Non, Patrick,
tu parcours le corps. Bon, alors,
je tremble, je vibre.
Dis-nous où on peut te retrouver sur Internet pour vibrer avec toi. Sur Internet ou ailleurs, d'ailleurs, pour vibrer avec toi quand tu n'es pas dans le Rendez-vous Tech.
Écoute, Pascal Forgette sur les réseaux sociaux, pascalforgette.com, mon site web, le podcast Une Tasse de Tech, qui est un peu similaire et que je vais peut-être stimuler davantage tes auditeurs, ne pas te les voler, au contraire, leur donner plus de contenu. Le podcast Une Tasse de Tech qui est diffusé une fois par semaine, où on parle de nouvelles technologies, ça ressemble un peu, nouvelles techno, essais de gadgets, interview avec des gens, des startups québécoises. Ça pourrait peut-être intéresser des gens qui t'écoutent, Patrick. Et puis, autrement, n'hésitez pas à m'écrire, je suis toujours là pour vous.
Super, pascalforgette.com et Pascal Forgette sur Twitter. Le compte sera dans les notes de l'émission. Pour ma part, c'est NotePatrick sur NotePatrick.com. Vous le savez, les liens vers tout ce que je fais, que ce soit le Rendez-vous Tech ou le Rendez-vous Jeu. Vous pouvez également trouver les liens vers le compte Twitter, le compte Twitch, si vous voulez nous rejoindre sur Twitch. Vous pouvez aussi voir la chaîne YouTube où on a la rediffusion des émissions qui s'appelle NotePatrick Podcasts, et également le Discord, où non seulement il y a plein de gens sympas, super cool, qu'on aime beaucoup, mais aussi l'after show qu'on fait ensemble pour l'after show. Salut, tu as activé ta caméra. Bonjour Pascal.
Tout le long du podcast, je me demandais, devrais-je allumer ma webcam ? Puis-je allumer ma webcam ?
Écoute, sur Twitch,
j'ai la réponse. Depuis le tout début, j'aurais dû activer ma webcam.
Mais on te voit pas bien parce que j'ai calé le truc pour l'avatar dans la vidéo. mais ça passe quand même pas mal. Ça passe pas mal, c'est bien. Donc
entre mon doux visage et un avatar, tu préfères un avatar ?
Non. Mais je préfère de loin ton doux visage, clairement. Et donc, écoute, tu nous accompagnes pour la fin de l'émission où je disais que l'after show arrive dans un instant, et si vous êtes patriote au niveau 2, vous pouvez nous rejoindre sur le Discord dans le Channel Voice After Show pour participer, et tous les patriotes ont droit à ce contenu bonus. Si vous êtes patriote, vous devez juste rester sur le flux privé pour continuer à nous écouter. Si vous n'êtes pas patriote, vous pouvez aller sur patreon.com/rdvtech, et le lien est dans les notes de l'émission pour rejoindre la formidable communauté, la formidable famille des Patriotes. On vous remercie d'avoir passé ce moment avec nous et on vous donne rendez-vous dans une semaine pour un nouvel épisode. Ciao à tous !